Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Marie-Ève au micro en ce 12 décembre 2024 pour notre dernière émission de l'année. Donc, un dernier tour de piste pour vous parler d'enjeux migratoires, de racisme et d'initiatives pour le combattre, de droits de la personne, de régime autocratique et de soulèvement populaire, de questions qui touchent les peuples autochtones. Tout ça tant sur les scènes nationales et internationales, en passant par le local. À mes côtés, comme à leurs habitudes en tant que co-animateurs hors pair, Mathieu et Simon. Bonjour à vous deux.
Bonjour Marie-Ève, bonjour Simon.
Salut Mathieu, c'est Marie-Ève. Salut à notre invité.
À notre invité Manuel, qu'on va accueillir tout à l'heure.
Salut, merci pour l'invitation.
Simon qui est à la console pour la première moitié de l'émission, toi tu vas assurer une bonne partie du volet international avec des nouvelles d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Afrique du Nord-Est et du Moyen-Orient.
Ouais, ben le Moyen-Orient, Nord-Est, on va dire Égypte-Liban, en gros, et certains pays éparpillés dans l'Afrique subsaharienne.
Parfait, parfait. Puis toi, Mathieu, qui est avec moi en studio pour l'instant, tu nous amènes dans les Balkans et au Caucase.
Oui, Balkans, Caucase, Europe de l'Est. Et je vais parler aussi dans, en premier temps, des enjeux autochtones.
Bien sûr.
La CAQ et les Autochtones, ça va très bien ça aussi, c'est grand-ci.
De mon côté, ben, je vais principalement m'entretenir, on vous le disait, avec Manuel Salamanca, qui est organisateur communautaire au Centre des travailleurs travailleuses immigrants à Montréal. Avant de le rejoindre, des nouvelles de l'enquête publique du coroner sur la mort d'Abdirahmane Abdi, dont je vous ai parlé à la dernière émission. Je rappelle que l'enquête s'est ouverte le 18 novembre, puis devait durer 21 jours, soit jusqu'à la semaine prochaine ou jusqu'à lundi. Je ne sais pas si on va connaître les conclusions lundi comme telles, là, mais il y a plusieurs témoins qui ont été entendus, dont les deux policiers dont je vous parlais la dernière fois, qui sont intervenus auprès de M. Abdi, c'est-à-dire Dave Weir et Daniel Monson. Daniel Monson, lui, est venu dire en gros que la force était nécessaire pour arrêter M. Abdi, qui avait jamais voulu le blesser, malgré le fait, je le rappelle aussi, qu'il a donné plusieurs coups de poing au visage à l'aide de ses gants renforcés. À ce propos, il y a l'enquêteur de l'unité des armes à feu et des bandes de rue qui est venu déclarer, lui, qu'il pensait pas que les gants renforcés causent plus de dommages que des gants ordinaires. Faudrait peut-être s'essayer sur lui. Le témoignage le plus attendu était celui, évidemment, de Daniel Monson, qui a dû être averti pour ses prises de bec avec quelques avocats, selon le compte-rendu de Radio-Canada. Par exemple, il y a l'avocat de la famille Abdi a souligné que le policier se doutait bien que M. Abdi avait des problèmes de santé mentale, puis que malgré ça, ben le policier a rien fait pour désescalader la situation. Ce à quoi Monson a répondu, il n'est pas question d'escalade ou de désescalade, j'essayais de l'arrêter. Alors, une logique un petit peu binaire ici. Mm-hmm. Plus tard, il y a Rick Frank, qui est l'avocat du Black Action Defense Committee. Lui, il a demandé si certaines de ses décisions prises lors de l'intervention avaient pu être influencées par des préjugés implicites dus au fait que M. Abdi était noir. Je cite la réponse tout aussi équivoque de Daniel Monson. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui ne l'est pas. Je me fous que la personne devant moi soit blanche, noire ou verte.
Et là, ils n'ont pas eu des formations récemment, eux autres,
hein? Ben, j'y viens, tu vois. tu vas voir que tout est dans tout. Il a aussi affirmé ne pas croire à l'existence du racisme systémique au sein de la police. Et c'est à ce moment-là que Rick Frank a renchéri en demandant à l'ex-policier ce qu'il avait retenu sur le racisme antinoir au fil des diverses formations qu'il a reçues. Et sa réponse, pour toi, Mathieu, « Je ne me souviens plus de mes formations. » Alors, vous savez ici ce qu'on en pense de ces formations, les apatrides anonymes. Eh bien, on a un exemple de que ça ne sert pas à grand-chose, finalement.
Hein? Ouais.
Alors, après quelques notes de musique, on se retrouve avec Manuel Salamanca en entrevue. Alors, d'abord, bienvenue, Manuel.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté. Ouais. Alors, tu travailles au Centre des travailleurs, travailleuses migrants à Montréal, le CTI a été très actif cet automne. Faut dire que les gouvernements fédéral et provincial n'ont pas cessé de multiplier les annonces en lien avec leur politique en matière d'immigration. Et tout récemment, là, on peut penser à Mark Miller qui a littéralement retourné sa veste en rompant sa promesse d'un vaste programme de régularisation. Peux-tu nous parler un peu, Manuel, de ton rôle, en fait, au CTTI? Ça consiste à quoi être organisateur communautaire auprès des travailleurs, travailleuses migrantes?
Oui, bien sûr. Le CTI est un organisme de débat communautaire avec une mission politique de défense et promotion des droits de travail des travailleurs migrants. Si bien on donne des services de soutien individuel, aussi on dirige les efforts à organiser collectivement les travailleurs abusés et exploités. Dans ce contexte, le rôle des organisateurs est de développer un outreach, connexion avec la communauté immigrante et migrante, dans leur endroit de travail, aussi de soutenir individuellement à quelques de ces travailleurs. Quand la clinique, pour somme d'information légale qu'on a, est débordée des cas, maintenant, aussi de développer des ateliers et espaces collectifs de discussion sur droit de travail et droit de l'immigration reliés au travail. L'idée à construire des agents collectifs, des fois faire la représentation, mais en général, on essaie de former à nos leaders pour qu'ils soient eux-mêmes, ils et elles-mêmes qui peuvent prendre la parole. Donc, il y a un processus d'éducation populaire, de construction de connaissances et visibilisation sur les conditions structurelles d'abus et d'exploitation des travailleurs, qui après, ça s'est approprié par les propres travailleurs. Les
oui, organisateurs, c'est ça. Ouais. C'est comme un organisme un peu qui fait du par et pour, comme on,
ouais,
comme
exactement.
On dit.
Exactement.
C'est ça.
Ouais.
Est-ce que donc vous êtes en contact comme justement directement avec les personnes qui sont impactées par les politiques migratoires puis les différents programmes? Est-ce que tu peux nous parler justement des différents enjeux en lien avec le travail et l'immigration?
Oui, bien sûr. On parle des travailleurs non syndiqués en général, une grosse proportion de travailleurs migrants.
Okay.
Qui viennent sont des travailleurs non syndiqués. Donc, la première chose qui est très connue, c'est la manque de connaissance de leurs droits, des processus institutionnels à suivre, barrières linguistiques, barrières d'accès aux services, très vulnérables, comme on a vu, au changement migratoire, vulnérabilité financière, manque de possibilités de planification financière, des fois, vulnérabilité sociale. C'est pas le même une femme non blanche avec des filles sans papier qu'un homme avec résidence permanente blanche. Donc, l'intersection, là. Frais extras, d'habitude, il doit payer des frais extras pour la famille, pour envoyer l'argent, pour les processus migratoires avec des avocats. Des cas d'isolement social sont racisés. Et plus spécifiquement, on peut parler, par exemple, dans les cas des travailleurs étrangers temporaires, les fameux permis de travail fermés. Cet régime qui présente une disparité exceptionnelle de pouvoir entre employeur et employé. Et complexité des démarches migratoires, c'est de comprendre son statut. Et il y a beaucoup de naturalisation de harcèlement dans le travail.
Ouais.
Bas salaire. Et beaucoup de travail par agence de placement ou intermédiaire. Beaucoup des abus, on voit beaucoup des abus des agences. Aussi, abus de recruteurs, des agences de recrutement, des consultantes d'immigration des fois.
Consultants un peu frauduleux,
Oui, vraiment. Et qui demandent beaucoup d'argent aussi. Certains secteurs aussi utilisent beaucoup de travailleurs, pour exemple l'entreposage, par exemple, Dollarama par agence, Amazon aussi, il y a beaucoup.
Ouais.
Les comités de santé et sécurité ne fonctionnent pas, ou il n'y a pas inclusion et représentation
des travailleurs migrants,
ouais. Pour exemple. C'est un océan de choses, mais aussi des fois avec les travailleurs syndicats, on a des problèmes parce que même les travailleurs syndicats ne connaissent pas qu'ils sont syndiqués.
Ah ouais.
Parce qu'il n'y a pas de processus de réception, d'intégration à la vie syndicale. Je ne vais pas généraliser, mais on voit encore des cas de ce type. Non? Donc,
puis est-ce qu'il y a comme un... Excuse-moi, mais est-ce qu'il y a de t'interrompre, mais je trouve ça intéressant cet aspect-là. Est-ce qu'il y a plus de travail à ce moment-là, vous, du CTI, qui est fait auprès des syndicats pour mieux intégrer, puis justement...
De peu à peu, selon notre énergie, on essaye. Il y a une ouverture des syndicats, surtout au niveau des centrales syndicales.
Ouais.
Mais encore, il faut... On a de bonnes relations avec les centrales syndicales, mais il faut faire beaucoup plus de travail au niveau des représentants syndicaux locaux,
ouais.
Des organisations locales.
Sur les lieux de travail.
Sur les lieux de travail, oui.
Oui, je comprends. Toutes les mesures un peu dont je parlais en introduction là, de resserrement des politiques migratoires ou des frontières comme les contrôles aux frontières, voire les fermetures un peu là, comme on a vu au chemin Roxham, les moratoires, tout ça. C'est quoi les conséquences de ces politiques-là, mais aussi les conséquences du discours ambiant qui présente les personnes migrantes comme responsables d'à peu près tout ce qui va mal là, dans la société québécoise?
Ouais. Ouais. Bon, on peut identifier plusieurs impacts négatifs, mais on peut parler première de beaucoup de gens vont tomber dans le statut irrégulier ou sans papier, comme on s'appelle, non? La deuxième, peut-être que les abus au travail vont augmenter en correspondance avec l'augmentation des vulnérabilités des personnes migrantes qui tombent dans un statut irrégulier. La troisième, qu'on peut mesurer, c'est les abus des droits humains aussi avec l'augmentation, possible augmentation de déportation qui va avoir après que beaucoup de gens décident de rester.
Donc, une augmentation du sentiment d'insécurité.
Bien sûr, bien sûr. Ça qui augmente le peur de dénoncer l'employeur, etc. Non? Et tout bien en relation. Et le quatrième qui se relie à la rhétorique anti-migratoire, c'est un peu plus comme ça, mais la désinformation chaque fois plus grande de ce qui est l'immigration et la migration à Québec et au Canada. Pour donner un exemple, depuis la pandémie, les gens, chaque fois de plus en plus, on observe un terrain qui cherche des explications simples et bouc émissaire. Mm-hmm. Ça a passé à la pandémie avec toutes les histoires qui ont circulé pour les médias.
Ouais.
Donc, c'est un phénomène. On doit rappeler, par exemple, les négationnistes de la pandémie, toute la théorie fou derrière. Donc, les relations simples et forcées entre l'immigration et, par exemple, la situation économique de crise, la manque de logement, la manque de services de santé, etc., c'est comme qu'ils couvrent des problèmes structurels qui ne sont pas nouveaux. Ils sont transformés en rhétorique politique très instrumentalisée maintenant pour les gouvernements, pour les deux, pour les fédérales et les provinciales au Québec. Mais on voit la même chose aux États-Unis, on le voit au Canada, on le voit au Québec, mais il faut rappeler. Et il faut se souvenir que le même sujet Trudeau, le premier ministre et Legault, le premier ministre de Québec, parlait aussi pendant la pandémie. Ils utilisaient les noms comme les anges gardiens pour se référer à les immigrants, les essentiels, etc. Dans un moment critique pour la société canadienne où il y avait besoin de main d'œuvre. Si, tu te rappelles de ça, non?
Ouais.
Donc, cette rhétorique instrumentale aussi, dans ce moment, a justifié l'arrivée de plusieurs migrants pour les employeurs sans les protections et sans donner la possibilité de la résidence.
Ouais.
Non? Tu peux noter l'usage qui existe. Donc, en moins de 12 années, on a passé d'essentiel et ange gardien à le bouc émissaire de tous les problèmes de Québec et de Canada.
Et c'est les mêmes politiciens qui sont encore là.
Exactement.
Hein? Ouais, il y a une expression pour ça qui s'appelle parler des deux côtés de la bouche.
Exactement. Et ça passe toujours à un moment électionnaire.
Oui.
Ouais.
Toujours.
Ben non, c'est ça.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses que, justement, ces discours-là, tu dis que, justement, pendant les élections, c'est souvent, ou pendant les périodes électorales ou préélectorales, on voit souvent la résurgence de ces discours-là. Est-ce que tu penses que ça trouve vraiment un écho pour vrai dans la population ou bien est-ce que ça reste là plus dans les milieux politiques et médiatiques là, chez nos fameux chroniqueurs, entre autres?
On suit de très proche, on suit toujours, la presse, les médias sociaux comme YouTube, etc. Et là, c'est bien facile à voir. Et dans les commentaires, en note de presse, aussi dans les sites de YouTube, et même de la part des mêmes immigrants qui ont déjà plusieurs années dans le Canada, il y a des commentaires et des petites analyses qui s'adhèrent, qui s'adjointent à cette rhétorique.
Ouais.
Non? Donc, les voix critiques à ces mesures sont encore limitées. La désinformation, sans doute, ça crée un cadre d'analyse limité. Et notre travail aussi est de maintenant et d'essayer de contrer ces discours à partir de notre travail de terrain et les choses qu'on observe en terrain. De la systématisation de ces situations variées, qui sont très variées de travailleurs, à partir des leaders même qui sont capables de dénoncer la situation systématisée et pas parler seulement au niveau individuel, sinon de tout un groupe, un collectif de travailleurs. Donc oui, la réponse qui est bien sûr, c'est bien ancré dans la population cette rhétorique.
Il y a une bonne
réception. Ça marche. Et je pense que c'est symptomatique comme phénomène. Je vois ça, j'ai vu ça pendant la pandémie et je le vois à nouveau. ouais. en ce moment.
Est-ce que, comment tu qualifierais justement l'état d'esprit là, des gens que vous côtoyez, que vous aidez au CTTI? Est-ce que tu dirais que justement les gens sont comme plus combatifs? Est-ce que ça augmente la volonté des gens de se mobiliser ou au contraire que ça les paralyse un peu? Ouais. Ou que ça...
C'est vraiment une bonne question parce que les nouvelles messieurs, quand ils sont arrivés, on était décourageants pour les milieux communautaires combatifs, on va dire, non? Pour nous, pour les organisateurs. La première réaction a été d'être fâché, d'être perplexe, mais immédiatement, il y avait aussi un manque de compréhension de ces mesures, très subite, très complexe. Donc, il a été nécessaire, premier, pour nous et nos membres, de comprendre les impacts individuels et après les impacts collectifs aussi. Mm. Ça représentait informer à des travailleurs, soit individuellement et collectivement, de quoi s'agit ces mesures. Dans ce moment, quand ils comprennent ça, c'est le moment quand les personnes changent la perplexité, on va dire, l'immobilité. Ils comprennent l'intentionnalité de ces mesures, qui est basiquement d'utiliser les migrants comme main d'œuvre pas chère et jetable en termes de crise et mm-hmm. exploitable en moment d'expansion économique du capital. Ouais. Donc, dans ces moments, ils commencent à se sentir indignés, fâchés de la manque de reconnaissance de leur contribution sociale et leur valeur sociale comme travailleurs et personnes. Donc, la magnitude de ce virage agressif en même temps, pour nous, nous donne aussi une opportunité d'unifier différents groupes d'immigrants de différents statuts, demandeurs d'asile, migrants temporaires, à permis fermé, étudiants, personnes sans papier ou sans statut. Par exemple, pour unifier la compréhension de qu'il y a un collectif qui est abusé de manière systémique pour
Oui, puis qu'on peut lutter collectivement.
Oui, exactement. Donc, c'est une opportunité en même temps.
Ah, c'est bon, ça. Ça donne, en tout cas, plus d'espoir que l'inverse. Écoute, on va écouter quelques notes de musique, puis au retour, on va parler plus, justement, de la mobilisation que vous organisez le 18 décembre.
Parfait, merci.
Alors, on est toujours en compagnie de Manuel du CTTI, le Centre des travailleurs, travailleuses immigrantes de Montréal. Donc, Manuel, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce que vous organisez le 18 décembre? C'est quoi, au juste, une journée sans migrantes? C'est quoi votre message?
Oui. Une journée sans migrants, rien ne bouge sans nous. Non? C'est le mercredi 18 décembre. Pourquoi le 18 décembre? Parce que c'est la journée internationale des migrants.
Ah oui, c'est vrai.
On cible cette date pour son pouvoir symbolique, pour le pouvoir symbolique, et parce que ça nous permet de faire visible les valeurs et la dignité des personnes migrantes. On a convoqué, il y a deux choses, basiquement, qui vont passer. On a convoqué une conférence de presse à 10 heures dans le complexe, sur le complexe Guy Favreau, qui c'est à 200 René Lebesque, Boulevard Ouest. Et après, à 4 heures, à 16 heures, un rassemblement au parc métro.
Au métro parc.
Au métro parc, oui, exact. On a, à partir de tous les processus de discussion collective, on a quatre demandes directes. La première, c'est arrêter la mise en œuvre des dernières mesures d'immigration pour les personnes déjà présentes dans le pays et garantir leur accès à la résidence permanente. La deuxième, c'est la mise en œuvre immédiate d'un programme de régularisation globale et complet que le gouvernement avait promis, ainsi que la suspension immédiate de déportation et de détention. La troisième, c'est l'abrogation des permis de travail fermés et accès à la résidence pour les travailleurs temporaires. et soutenir réellement la francisation. C'est contradictoire parce qu'ils ont arrêté les soutiens à la francisation et avec toute cette rhétorique avec les Français, c'est contradictoire complètement. Donc,
sans nous, il n'y a pas, sans nous, pas moi, là, mais je veux dire, sans nous, travailleurs migrants, il n'y a pas de, tout est arrêté. Ça veut dire, dans le fond, c'est un peu comme une grève sociale, c'est ça?
Oui, c'est un peu comme une grève sociale. Et aussi, je peux mentionner peut-être que je viens de parler avec des personnes des autres organismes communautaires qui sont en contact avec des employeurs, des organismes d'intégration sociale, et la petite et moyenne entreprise sont très préoccupées. Il dit que les mesures ne sont pas pertinentes parce que nous sommes dans un processus de récupération économique et on a besoin, pour la récupération économique, on a besoin de travail parce que le travail produit valeur. Et ils vont commencer
C'est encore le discours utilitaire.
Exactement.
On est toujours en crise économique, Est-ce qu'il va y avoir du piquetage à certains endroits?
Non, mais il est bien probable parce qu'on appelle à plusieurs actions de solidarité peut-être pendant la journée. Mm-hmm. Donc, on croit qu'il va y avoir des autres actions de solidarité, mais on demande que les personnes qui ne sont pas capables de venir à 4 heures, parce que à 4 heures, c'est le rassemblement, le rallye, et on demande que la personne, les travailleurs migrants, prennent la journée ou même une heure de congé pour montrer au gouvernement et à la société que les migrants sont essentiels et méritants, qui appelle et dit « je ne peux pas aller parce que je suis mal de santé ». Aussi, on demande s'il y a quelques personnes qui peuvent organiser avec les collègues pour distribuer des tracts. Ouais. On a déjà commencé à faire ça. Plusieurs leaders ont commencé ça. On demande aussi, c'est important, prenez une photo, une selfie pour montrer votre soutien et envoyez-les à... On a une adresse dans les flyers qui c'est joursansmigrants@gmail.com pour envoyer avec un message de soutien. Et en général, on demande que les gens commencent à s'impliquer avec l'organisation et la mobilisation pour le 18 décembre. C'est ça. Et c'est une action, oui, symbolique, mais qu'on pense que peut avoir des répercussions parce que c'est une plateforme de lutte initiale pour les choses qui s'en viennent dans le futur, parce que ça va empirer.
Justement, est-ce que vous préparez d'autres choses aussi après dans...
Bien sûr, parce qu'on commence à parler du 1er de mai. Qu'est-ce qui va passer avec le 1er de mai? Oui. Et avant de ça, bien sûr, qu'il peut-être va y avoir des autres ateliers, assemblées qu'on va organiser pour qu'on continue à mobiliser les gens.
J'avais une question, Marie. Ça se passe à l'extérieur de Montréal, au Québec et au Canada?
Oui, on a cette action, mais aussi on a action à Rimouski, qui organise nos organisateurs communautaires à Rimouski, avec le soutien aussi de la participation de quelques syndicats. Mm-hmm. Et aussi, on a à Québec,
une
autre action organisée ce jour. Et il y a des lettres qui vont envoyer au premier ministre. On va avoir aussi des lettres dans la presse, des lettres publiques,
lettres ouvertes.
Donc, c'est beaucoup d'efforts. Il existe aussi le soutien de la coalition pour la régularisation et la justice migrante, qui c'est une coalition de plus de 50 organisations, organismes communautaires et des syndicats qui sont actives maintenant.
Il y a eu la semaine au mois de novembre, là, la semaine d'action de la coalition.
Oui, c'est ça, parce qu'ils ont participé activement à ce moment-là. Donc, on a commencé en novembre, on va dire, le processus, mais on veut agrandir un mouvement et avoir un mouvement plus consolidé parce que la chose qui s'est bien avec Trump, avec possiblement les élections qui vont gagner, on pense, les conservateurs, ça va être pire la situation. Donc, il faut réagir à tout ça.
Mais c'est bien que tu nous parles un peu justement de l'implication de d'autres groupes de la société, tu sais, parce que des fois j'ai l'impression, ou en tout cas, est-ce que toi t'as l'impression que justement le fardeau de toute cette mobilisation-là repose finalement, puis de dénoncer la situation repose essentiellement sur les épaules des premières personnes concernées, tu sais, impactées, touchées par ces mesures-là. Puis là, on voit que, OK, les groupes communautaires commencent plus à bouger puis à s'impliquer, mais est-ce que tu penses qu'ils en vont assez? QS, par exemple, tu sais, Québec solidaire, il me semble qu'on les entend pas beaucoup.
Oui, mais bien sûr, au syndicat, on sent qu'ils ont commencé à avoir des soutiens plus concrets chaque fois. Aussi, dans quelques groupes communautaires, mais il faut penser que ce sont des processus longs parce que plusieurs, le secteur communautaire c'est un, si bien a émergé pendant la Révolution tranquille, ouais, avec processus, mais ils ont perdu beaucoup, beaucoup de cette, ouais, tradition d'organisation. Il faut réactiver un peu ça. Ça va prendre un peu de temps pour la conscientisation. Et le Québec solidaire, je préfère ne pas parler.
On comprend.
Okay,
on
c'est
comprend.
Bon. Il n'y a pas de problème.
On parlera pas du NPD, donc ouais, c'est correct. Okay.
Est-ce qu'il y a des initiatives ou des mobilisations ailleurs aussi, que soit ailleurs au Canada ou dans le, ouais, monde, que vous trouvez particulièrement inspirantes ou intéressantes?
Oui, je pense que ça vaut la peine mentionner que le 18 décembre, c'est un mouvement, une chose, une action pan-canadienne, avec le soutien de l'Alliance internationale des migrants. Ouais. Ils aussi organisent des autres actions dans plusieurs villes importantes de Canada. Et aussi, on sait que dans des autres pays, ils commencent, aux États-Unis aussi, ils commencent à avoir des assemblées de plus en plus, vu la situation qui s'en vient avec les politiques migratoires de Trump, non? Donc, oui, c'est ça. On connaît aussi que en mars, il y a un appel aussi, la jeune de la marche de solidarité à Paris, qui fait un appel une journée de mobilisation à mars internationale, mm-hmm, contre le racisme et le fascisme.
Okay.
Donc, il y a un processus global aussi de réagir à tout ce type, ouais, de mesures politiques anti-immigratoires, à toute cette rhétorique anti-immigratoire.
Ben, OK. Ben, merci, Manuel. Écoute, ça passe vite. C'est le, ouais, tout le temps qu'on avait, mais donc, merci. Puis, rappeler, donc, le 18 décembre, mercredi, à 16h, au Métroparc, rassemblement en appui à cette journée, justement, de journée sans migrants, migrantes,
ouais, ouais,
pour la...
Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Appeler, oui, à les étudiants à soutenir ça, parce que les étudiants internationaux aussi sont très touchés pour cette mesure.
Oui.
Ouais.
Ben, merci encore.
Merci à vous, vraiment.
Puis, on va aller écouter un groupe qui s'appelle Dame Erea, avec la pièce « Sempre cambiar ». Je vous en parle plus au retour. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les Apatrides Anonymes. On vient d'entendre le duo espagnol Dame Aérea de Barcelone et la pièce Sempre Cambiar ou Changement Perpétuel en français. C'est ma traduction personnelle.
Ben oui, c'est bien.
C'est tiré de leur dernier album paru en septembre et intitulé Todo la verdad sobre Dame Aérea ou Toute la vérité sur Dame Aérea. Et sur ce, on retrouve Mathieu et sa voix suave avec un tour des actualités autochtones au pays.
Avec un petit grain de rhume, c'est encore plus sensuel. Le nez bouché un peu. Écoute, oui, puis on parle encore des méchants gouvernements, dont celui du Québec, parce que avec les Autochtones, ça vaut pas mieux qu'avec les migrants, même si ça fait un peu moins l'actualité. Première nouvelle, j'en ai trois courtes. Le gouvernement du Québec devra payer les 768 000 $ réclamés par Mastéyache, a tranché la Cour suprême du Canada il y a deux semaines. La communauté située au lac Saint-Jean réclamait cette somme à la suite d'un litige portant sur le financement de son corps de police.
Ah.
On en parle souvent, les corps de police autochtones. Avec les intérêts, le montant devrait avoisiner 1,1 million de $.
Hey,
ce litige, qui a débuté en 2017, opposait au départ la communauté Innu et les gouvernements du Québec et du Canada. Mastéyache estimait que les deux ordres de gouvernement avaient manqué à leurs obligations, ce qui avait empêché le corps policier d'obtenir suffisamment de financement. La communauté réclamait un financement comparable à celui des autres municipalités québécoises et canadiennes pour son service. Elle avait un déficit de 1,6 million de $ entre 2013 et 2017 d'accumulés. La Cour supérieure du Québec avait d'abord donné raison à Québec et à Ottawa en 2020. Par la suite, Mastéyache a porté la décision en cour d'appel du Québec où le juge Jean Bouchard a tranché en faveur de la communauté le 15 décembre 2022. Le fédéral s'est plié à ce jugement, acceptant ainsi de verser sa part de financement, soit 832 000 $. Mais le gouvernement du Québec avait toutefois porté cette décision en Cour suprême. Il aime la Cour suprême, hein, le gouvernement de la CAQ. Hein?
On jette de l'argent par les fenêtres, on s'en va en Cour suprême.
On étire les délais, C'est une victoire pour les membres de notre Première Nation, mais également pour la sécurité de toutes les Premières Nations au Canada. Nous avons enfin la chance d'avoir des points de référence auxquels les gouvernements ne pourront pas ne pas tenir compte dans le renouvellement de nos ententes, a dit le chef Gilbert Dominique. Le Québec fait un choix tout aussi inacceptable de définir sa relation avec les Premières Nations par la voie des tribunaux. La décision de la Cour suprême constitue un rappel au gouvernement de mettre fin à leur discrimination envers nos services policiers, a-t-il rajouté. Deuxième nouvelle, dans le même sens un peu, une communauté Anishinaabe dénonce le gouvernement du Québec qui a décidé de faire appel de la décision d'un tribunal qui avait statué que la province avait l'obligation de consulter les communautés autochtones avant d'accorder des claims miniers sur les territoires ancestraux. La Première Nation Michikanibikok Inik, également connu sous le nom des Anishinaabe de Lac-Barrière, a manifesté son désaccord concernant la décision du gouvernement de porter appel d'un jugement rendu le 18 octobre dernier. En octobre dernier, la juge Chantal Mas de la Cour supérieure avait affirmé que Québec avait bel et bien une obligation constitutionnelle de consulter les communautés autochtones pour accorder des claims permettant l'exploration minière sur des territoires et que la province devait désormais consulter et accommoder les Premières Nations de manière appropriée avant tout nouveau claim, ainsi que pour les claims existants.
OK, c'était rétroactif.
Exactement, dans les territoires
ils
vraiment...
Ils ont-tu dit rétroactif à quand?
Non, c'est existant. Il faut qu'il existe toujours, c'est ça. Mais on parle des territoires des Premières Nations reconnus. Il est décevant que le Québec traîne les Michikanibikok Inik devant les tribunaux au lieu d'œuvrer à la réconciliation. Même discours. Hein? Le Québec devrait donner l'exemple en modernisant sa loi sur les mines pour non seulement respecter, mais même aller au-delà de ses obligations constitutionnelles plutôt que de perpétuer des pratiques dépassées, a déclaré Marc Bichaille, avocat au Centre québécois du droit de l'environnement qui représente la communauté autochtone. Et dernière nouvelle qui est... Est-ce que c'est dans le même sens?
Un autre appel?
Non, c'est pas en cours, mais c'est administratif.
Pas Cour suprême cette fois-ci.
Non, c'est pas encore en cours, mais ça va l'être, évidemment. Québec veut remettre la planification forestière entre les mains du forestier en chef et de l'industrie, en plus de ramener le concept de zonage forestier. Retour en arrière de 30 ans, vision biaisée au profit de l'industrie forestière, transgression des obligations envers les Premières Nations. La réforme du régime forestier québécois proposée par le gouvernement Legault ne passe pas auprès des communautés autochtones de la province. Déjà, le modus operandi du gouvernement qui tient les rencontres confidentielles à l'abri des regards a irrité de nombreux chefs autochtones. Faisant front commun, les Premières Nations ont en effet refusé de signer un engagement de confidentialité qui leur aurait interdit de partager les renseignements sur la place publique, y compris aux membres de leur propre communauté. Au-delà du contenant, c'est surtout le contenu qui dérange aujourd'hui les représentants autochtones. Dans une lettre coup de poing adressée à la ministre Maïté Blanchette-Vézina, il rejette catégoriquement la réforme proposée par le gouvernement. Selon l'analyse qu'en font les Premières Nations, ce zonage donnerait préséance à la production de bois sur une partie importante du territoire forestier public. Par cette mesure, ajoutons, Québec souhaite donner une primauté légale à l'industrie forestière pour en exploiter la ressource sans contrainte, sans même devoir consulter la population et les Premières Nations. Mm. Il n'y a rien concernant la sauvegarde de nos modes de vie, rien pour stopper la dégradation de nos territoires ancestraux. On n'y retrouve aucune mention de l'aménagement écosystémique et du maintien des vieilles forêts si précieuses pour notre biodiversité et le caribou forestier déplore les chefs. L'aménagement écosystémique est depuis 2013 au cœur de la stratégie forestière du Québec. Il a été implanté à la suite du rapport Coulombe, rédigé à la suite de la diffusion de l'erreur boréale il y a 25 ans. Fait qu'on viendrait 25 ans en arrière avec la CAQ et ses amis de l'industrie. Fait que ça va se retrouver devant les tribunaux parce qu'ils vont faire, ils vont appliquer.
Ben c'est sûr.
Ils vont sortir le nouveau régime, il va être contesté. Les syndicats sont sortis, les groupes environnementaux dans les derniers jours aussi pour dire que ça n'a pas de bon sens. Donc, on va en entendre parler plus.
Oui.
Vive la CAQ!
On retourne avec quelques notes et puis on te revient, Mathieu, mais là, dans un tout autre continent. Les chocs sur les ondes de choc.ca. Mathieu, Caucase et Balkans?
Caucase et Balkans, oui, pour te faire plaisir.
Ce que j'ai appelé j'aime ça dire ça, Caucase.
Europe de l'Est aussi. ben, écoute, ça commence en Albanie et en Italie. Rome achève le rapatriement de la majeure partie des 295 policiers et des travailleurs sociaux destinés à la gestion des centres de rétention de Shenzhen et de Galgère en Albanie. Ces centres, dont la construction et la gestion sont évalués à près d'un milliard d'euros sur cinq ans, sont en effet mis à l'arrêt par la justice italienne.
Oui, gardons.
Les groupes de migrants conduits entre octobre et novembre en Albanie, soit 24 hommes pour la plupart d'origine égyptienne et bengalaise, ont été renvoyés en Italie sur ordre du tribunal de Rome. Ce tribunal a aussi saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir son avis sur la légalité des centres de rétention en Albanie et sur la liste dressée par Rome de 19 « pays sûrs », entre guillemets, dont l'Égypte et le Bangladesh. Résultat, la délocalisation de migrants en Albanie est bloquée, du moins tant que ne se prononcera pas la Cour de cassation de Rome, la Cour d'appel, à laquelle le gouvernement a fait recours pour vérifier si les tribunaux peuvent conserver leur pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation d'un pays sûr. La décision est attendue en décembre, donc ça devrait être assez bientôt.
ça sent l'appel, hein?
Ça sent la Cour suprême. Sinon, ben, la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche vont envoyer 100 agents de la police aux frontières pour renforcer les effectifs bulgares à la frontière bulgaro-turque grâce à des financements de l'Union européenne. La Bulgarie va également renforcer son matériel de surveillance de cette zone d'entrée dans l'UE. Ce soutien des pays voisins fait suite à l'adhésion pleine et entière de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen, engagé depuis la signature d'un accord tout récemment le 22 novembre dernier. Tu savais pas, hein, que la Roumanie et la Bulgarie n'étaient pas dans l'espace Schengen au complet? Ils étaient seulement pour le maritime et puis l'aérien, mais pas pour les
sur terrestre,
exactement. La police aux frontières bulgares a aussi annoncé l'achat de 360 nouveaux véhicules tout-terrain grâce à des ressources débloquées par l'UE. Le système de vidéosurveillance est également en train d'être amélioré le long de cette frontière bulgaro-turque, notamment un tronçon de 100 km qui ne se trouvait pas encore sous surveillance vidéo, franchement. Frontex a pour sa part confirmé le déploiement de 500 à 600 personnels pour surveiller cette région. Frontex avait déjà annoncé l'an dernier que le nombre de ses agents serait triplé en Bulgarie. Et dans cette zone frontalière, s'exerce pourtant depuis des années des refoulements à chaud illégaux, dit pushback, ainsi que des violences des gardes frontières à l'égard des exilés, selon les nombreuses enquêtes journalistiques et rapports d'ONG. Frontex est bel et bien informé de ces pratiques, selon une enquête du réseau Balkan Investigative Reporting Network, parue en février 2024. Sinon, ben, en Russie, ça va pas bien. Non, ça va vraiment pas bien. La Russie a besoin de migrants pour se développer en raison d'une situation démographique tendue, a déclaré le porte-parole du Kremlin. La Russie a déjà adopté le 12 novembre une loi interdisant la promotion d'un mode de vie sans enfants, en cherchant à remédier à la profonde crise héritée de l'époque soviétique et largement amplifiée par l'invasion de l'Ukraine.
Ben oui.
Pour que nous puissions nous développer de manière dynamique, réaliser tous les projets de développement, nous avons besoin d'une main-d'œuvre, a souligné le porte-parole, en affirmant que les autorités russes ne peuvent que saluer l'arrivée de migrants dans le pays. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, disons.
Non.
Sinon, ben, Roumanie, je dois quand même le souligner, ça brasse pas mal là-bas.
Oui,
ça
a la été droite.
Un peu dans... Oui, l'extrême droite.
L'extrême droite.
En tout cas, toutes sortes de bizarreries. On rappelle que les sociodémocrates pro-européens sont arrivés en tête à l'issue des législatives du 1er décembre, mais l'extrême droite confirme sa forte percée. Le PSD, qui gouvernait jusqu'à présent avec les libéraux, a recueilli 22 % des voix, devançant les autres formations. Toutefois, l'ensemble des forces d'extrême droite, parce qu'il y en a 3-4 partis, combiné se situe à plus de 31%, soit le triple du précédent scrutin de 2020, c'est pas si longtemps. Dans une séquence inédite, ces élections interviennent une semaine après, ont intervenu une semaine après le succès inattendu du candidat d'extrême droite, Calin Georgescu, au premier tour de la présidentielle. Fait extrêmement rare en Europe, la justice a annulé le 6 décembre le scrutin présidentiel dont Georgescu a remporté le premier tour à la surprise générale, bénéficiant selon les autorités d'une campagne de soutien illicite. Dans l'UE, le dernier vote majeur annulé par la justice remonte à 2016. Le deuxième tour de l'élection présidentielle autrichienne avait dû être répété en raison d'irrégularité dans le comptage, mais aucune fraude n'avait finalement été découverte. Sinon, les services secrets roumains ont dressé des parallèles avec de précédents efforts d'ingérence électorale russe en Europe et ont recensé 25 000 comptes TikTok directement associés à la campagne de Georgescu, devenu extrêmement actif deux semaines avant la date du scrutin.
Tiens donc!
Sans parler des pots de vin d'hommes d'affaires riches et tout, un peu comme dans d'autres pays comme aux États-Unis. Sorti nulle part, Georgescu, dont le message « Roumanie d'abord », avait devenu viral, a séduit une partie de la population lassée des partis traditionnels. Critique de l'UE et de l'OTAN, cet ancien haut fonctionnaire de 62 ans s'est déclaré en faveur d'un arrêt total de l'aide militaire à l'Ukraine voisine. Il devait affronter le 8 décembre une centriste pro-européenne, Elena Lasconi. Là, c'est le Parlement qui a été élu, qui est en coalition, qui devrait décider d'une date du deuxième tour ou même reprendre le premier tour des présidentielles. Mais après, on a parlé de la Géorgie récemment, oui. Entre autres de la Moldavie, la Roumanie. Ça brasse.
Oui, c'est un peu le délitement des institutions démocratiques traditionnelles. Oui,
un peu d'institutions démocratiques traditionnelles. Ouais,
non,
qu'il y
c'est
avait.
Ça. Ben écoute, merci Mathieu. Ça fait plaisir. C'est plus court qu'à l'habitude, sur ça, on va aller écouter tes meilleurs, les Dale Hour Chuck.
Oui.
Et la pièce Buffet des continents. On écoutait le rock bien gras et bien efficace du Quatuor Janois, les Dale Hour Chuck, qui roulent leur boss, mine de rien, depuis plus de 15 ans. La pièce s'intitulait, je l'ai dit, « Le buffet des continents ». Je trouvais ça très rigolo. C'est tiré de leur album « Attaque à 5 », toujours dans la thématique, évidemment, hockeyeuse, paru en novembre. Ils vont être en tournée à partir de janvier. En commençant par Saint-Hyacinthe le 17 et à Montréal, ben il va falloir attendre au 7 mars à l'ESCO pour les voir. Et comme on a de la suite dans les idées, ben justement, on change de continent avec Simon, qui nous transporte en Afrique subsaharienne.
Oui, pour ce premier segment, complètement en Afrique subsaharienne, donc on parlera pas de la CAQ et d'appel de décision concernant les Autochtones, donc on va aller au Soudan, au Niger et au Ghana. Quelques chiffres de l'IDMC d'abord, ou en français l'Observatoire des situations de déplacement interne, un organisme norvégien indépendant qui collecte depuis 25 ans des données sur les déplacements internes à ne pas confondre avec les réfugiés qui traversent les frontières. Mm-hmm. Pour l'Afrique subsaharienne seulement, en incluant les pays du Sahel, on atteint aujourd'hui le chiffre de 20 millions de déplacés internes, trois fois plus qu'il y a 15 ans, un record absolu. Ça représente 42 % du total mondial de personnes déplacées à l'interne qui sont en Afrique subsaharienne. L'IDMC identifie deux grandes causes de déplacement, la violence et les catastrophes naturelles, et départager les deux catégories, surtout en Afrique, c'est pas toujours facile parce que souvent, superposition de plusieurs facteurs, des conflits par-dessus des conflits, des catastrophes par-dessus des conflits, etc. Donc, parfois, l'origine est tellement lointaine qu'on oublie les causes initiales. Ce qui est plus clair, c'est qu'actuellement, 80 % des personnes déplacées à l'interne en Afrique le sont dans les cinq pays suivants. Soudan, RDC, Somalie, Nigeria et Éthiopie.
OK.
Ça pourrait changer au fil de l'évolution des conflits, évidemment. Ouais. Le site Internet de l'IDMC est principalement en anglais, mais le rapport d'une soixantaine de pages est disponible en français, facile à trouver. Il se penche pas seulement sur l'Afrique subsaharienne, mais sur le monde entier. Le titre « Rapport mondial sur le déplacement interne » et c'est en téléchargement gratuit sur internaldisplacement.org. On y apprend aussi qu'au Canada, il y a actuellement 192 000 déplacés internes, okay. seulement en raison de catastrophes naturelles, que ce soit des inondations, des feux de forêt, etc.
Okay.
Maintenant, des nouvelles plus localisées. On parlait du Soudan dans les cinq pays subsahariens où on trouve le plus de déplacés internes, mais en général, le nombre de déplacés externes, surtout dans les pays voisins, est à peu près proportionnel. Mm-hmm. Dans le cas du Soudan, 11 millions de réfugiés dans les pays voisins, 1,2 million en Égypte seulement. Le Haut Commissariat pour les réfugiés réclame une aide internationale conséquente et immédiate pour les réfugiés soudanais en Égypte, n'ayant reçu en 2024 que 11 % des 214 millions de dollars jugés nécessaires pour faire face à la crise. En plus, le gouvernement égyptien a commencé depuis peu à essayer de restreindre de plus en plus l'accès à son territoire en votant au Parlement une toute première loi sur les réfugiés. Je vais y revenir dans mon deuxième segment. Mais la frontière entre le Soudan et l'Égypte fait 1300 kilomètres en plein désert, alors les réfugiés continuent quand même d'entrer assez massivement dans le territoire égyptien. Donc, 1,2 million de réfugiés soudanais en Égypte, nombre semblable au Tchad, où on parle de plus d'un million, les chiffres sont pas très précis. Dynamique un peu différente, par contre, puisque 90 % de ces personnes soudanaises réfugiées au Tchad sont des femmes et des enfants.
Ah
90
oui. C'est
même,
énorme.
C'est énorme, c'est presque la totalité. Donc, ouais. Même situation de saturation dans les camps et les hébergements temporaires, même rupture dans les services et soins de base, ce qui engendre un phénomène absolument dégueulasse. Ces denrées, services, médicaments sont, selon des révélations de l'agence de presse américaine, monnayés par des travailleurs dits humanitaires contre des rapports sexuels.
Ah, misère!
Et oui, le mot se propage et c'est rendu que cette frontière est connue pour un endroit où on peut abuser facilement des femmes et des enfants. Ce serait pratiquement érigé en système et cette exploitation profiterait à la fois des membres d'agences de sécurité, des membres des forces armées ou policières locales, mais aussi à des travailleurs affiliés à l'ONU. L'Agence des Nations Unies qui est sur place affirme avoir lancé une enquête, mais refuse d'en dire plus. Donc, c'est impossible pour l'instant de déterminer le sérieux de la démarche, où ça en est exactement. Je vais terminer sur le Soudan avec un vote au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu. 14 voix pour, une contre, et le vote contre, c'est celui de la Russie. Quelle surprise, qui dispose d'un droit de veto. On le sait, donc l'appel au cessez-le-feu a été battu, Moscou étant plus aligné que jamais sur le gouvernement du général Abdel Fattah al-Burhan, arrivé au pouvoir par la force en 2021.
Un grand démocrate.
Je crois aussi avec l'aide de certains groupes paramilitaires russes à l'époque.
Wagner, entre autres.
Oui, puis des agences, c'est pas tout le temps très clairement identifié. Mm. Donc, Moscou joue toujours un peu son rôle du sauveur de l'Afrique, si on se fie à l'ambassadeur russe aux Nations Unies, qui a dénoncé un projet de résolution au parfum post-colonial.
Ah tiens!
On se déplace beaucoup plus à l'ouest, au Niger, situation de crise dans la petite ville de Dirkou, en plein désert, où des centaines de migrants, surtout qui proviennent du Nigeria et qui tentent de rentrer chez eux après avoir connu l'enfer libyen. Ils sont bloqués devant les bureaux de l'OIM alors que les transferts sont actuellement au point mort. D'un point de vue sanitaire, c'est très préoccupant. Les gens couchent directement dans la rue, sur des tapis. On a accès à quelques robinets, un peu d'eau potable seulement. Mais c'est tout, pas de toit, presque pas de nourriture, de médicaments, pas de toilette ni de douche. Donc, des besoins criants de matelas, de couverture, de tout à peu près.
Ouais.
Certains campent là depuis des mois. Les raisons du blocage sont multiples. Situation sécuritaire désastreuse dans le nord du Nigeria. Boko Haram est toujours aussi actif et meurtrier. On en entend très peu parler, d'ailleurs. Nouvelles exigences administratives et même vaccinales de la part du gouvernement nigérian. Blocage dans les étapes successives sur cette route du retour. Donc, une sorte d'effet domino qui fait en sorte que si c'est, ça bloque pas un endroit, mais c'est bloqué à l'étape suivante.
Non, ça c'est bloque, ça. Ça crée un goulot d'étranglement.
Exactement. C'est l'ONG Alarm Phone qui est sur place, qui tente d'attirer les regards sur cette situation pénible à Dirkou pour que les différents acteurs et gouvernements impliqués bougent et débloquent les ressources nécessaires pour améliorer la situation et faire en sorte que les transferts reprennent leur rythme pré-pandémie. Dernière brève, toujours en Afrique de l'Ouest, au Ghana, où en 2011, des milliers d'Ivoiriens avaient trouvé refuge. Une entente signée entre l'ONU et le gouvernement ghanéen devait garantir à tout détenteur d'une carte de réfugié les mêmes droits qu'un citoyen ghanéen. Mais depuis 2022, il y a eu cessation du statut de réfugié. C'est un peu bureaucratique, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bref, les réfugiés ivoiriens au Ghana se retrouvent subitement comme s'ils étaient sans statut, même si depuis 12-13 ans à peu près, la plupart ont un logement, un emploi et même parfois des enfants nés au Ghana. Et là, c'est même plus possible de travailler légalement, les services publics sont refusés, santé, éducation, etc. Un porte-parole du gouvernement ghanéen dit que les délais sont causés par l'aspect inédit de la situation, situation pourtant créée par le gouvernement lui-même.
Ben, c'est ça.
Qui pourrait simplement émettre ce qui existe déjà, soit des cartes temporaires de non-citoyens qui donnent accès à l'emploi et aux services, et que ce soit fait vite, parce que ça peut dégénérer rapidement une perte de revenus, une perte d'emploi qui peut engendrer une expulsion du logement. Donc, c'est à prendre quand même au sérieux. Ce que le gouvernement ne fait pas, donc on peut s'attendre à des manifestations dans les semaines à venir. C'est ce que nous promet, en tout cas, l'Association des Ivoiriens intégrés au Ghana.
Vous êtes toujours sur les ondes des Apatrides Anonymes sur choc.ca et je suis toujours en compagnie de Simon qui est là et donc là du Ghana qu'on se transporte vers l'Égypte et le Liban, c'est ça?
Je vais commencer avec le Liban, je vais revenir ensuite sur l'Égypte qui a adopté une nouvelle loi dont je parlais sur les réfugiés.
Oui, dans ton bloc précédent, oui.
Oui, donc au Liban, officiellement, on est en cessez-le-feu. Officiellement, mais c'est pas respecté, donc on peut affirmer que l'agression israélienne sur le Liban qui avait commencé en septembre, elle se poursuit. Le bilan provisoire parle de 3800 personnes libanaises tuées versus 129 Israéliens tués, surtout des soldats. On parle aussi de 1,2 million de personnes libanaises déplacées, soit dans leur propre pays ou dans les pays, certains pays voisins. Étant donné la précarité de la situation actuelle, elle se demande actuellement si elle retourne à la maison. La plupart pensent que non, pour l'instant du moins. Un des angles morts de cette agression armée, ce sont les 250 000 travailleurs migrants qui vivent au Liban, dont une grande partie est composée des aides domestiques dans le système de la kafala. La plupart sont des femmes issues de l'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est, et lorsque leurs patrons ont décidé de quitter la maison pour se réfugier dans des régions plus calmes, on a souvent refusé de les amener. Elles ont donc été abandonnées sur place, seules, sous les bombes. Il faut savoir que ces aides domestiques, généralement, leurs papiers sont confisqués par leur patron.
Ah oui.
J'ose à peine par leur propriétaire, même si on veut parler plus crûment. Elles se retrouvent donc non seulement... Oui, comme ici, les aides domestiques philippines, par exemple. Là, c'est même institutionnalisé. C'est elles se retrouvent donc non seulement seules, mais sans statut, en pleine guerre. Elles sont dans tous leurs états, complètement traumatisées, laissées à elles-mêmes, parfois blessées, dans des régions où souvent il n'y a plus d'électricité, plus d'eau courante, plus rien. Et l'aide humanitaire a beaucoup de difficultés à se rendre. Ben oui. Souvent même, on interdit aux travailleurs humanitaires de se rendre quand c'est trop dangereux. En période de relative accalmie, il a été possible pour certains organismes chapeautés par l'OIM, comme l'Alliance Alliance Migrant Workers ou le Anti-Racism Movement, de rejoindre certaines aides domestiques pour les transférer vers des régions plus sécuritaires où on tente de leur fournir de l'aide de base, puisque les services gouvernementaux sont strictement réservés aux citoyens libanais. Mm. Donc, même les personnes enregistrées dans le système de la CAFALA, qui est enchâssée dans les institutions gouvernementales, pas de services gouvernementaux pour ces personnes-là. Les chiffres que j'ai consultés sont pas très clairs, alors j'essaierai pas de quantifier le phénomène avec exactitude, mais on peut comprendre qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'aides domestiques étrangères au Liban qui se trouvent à plus ou moins errer dans des zones bombardées. Je vais citer une travailleuse domestique burkinabé qui a réussi à se sortir elle-même des zones bombardées. Ses paroles sont rapportées par le journal Alternative. « Quand je suis arrivé à Beyrouth, mes employeurs m'ont appelé. Ils ne m'ont même pas demandé si j'étais en sécurité. » Ils m'ont simplement dit de venir là où ils se trouvent en sécurité et de travailler à nouveau pour eux. J'ai refusé. Je jure, même mon cadavre, ils l'auraient ramené pour travailler, dit-elle, la voix pleine de colère. On peut la comprendre. Pour terminer, je vais revenir, comme je disais, sur l'Égypte, qui a vu un accroissement important de réfugiés à ses frontières dans les deux dernières années, notamment au sud. J'en parlais avec les gens qui fuient la guerre au Soudan. Et aussi avec la toute petite frontière de 12 km au nord-est avec la bande de Gaza.
Ah oui.
Avec comme seul point de passage Rafah. Mm. Donc, toute première loi sur les réfugiés, alors qu'avant, c'était plutôt le Haut Commissariat qui déterminait l'éligibilité au statut de réfugié et les ministères égyptiens de l'Intérieur acquiesçaient plus ou moins et distribuaient ensuite les titres de séjour et les permis de travail en fonction des, pas des directives, mais des recommandations du Haut Commissariat. Ce sera plus le cas avec cette nouvelle loi. L'Égypte reprend son autonomie en la matière et standardise ses processus d'octroi du statut de réfugié. Et surtout, comme je le disais, elle augmente ses exigences pour rendre ça beaucoup plus difficile. Contrôle aux frontières renforcées, mesures administratives plus exigeantes et coûteuses, dont un visa à 1 500 $ US, ce qui lui permettra d'expulser beaucoup plus de monde plus rapidement. Amnesty International dénonce cette loi qu'elle juge très incomplète et qui ne viserait surtout qu'à exclure du processus le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ouais, pour pouvoir justement mieux expulser massivement, ce dont on l'accuse déjà, mais maintenant sans regard extérieur dans une apparence trompeuse de légalité. On exhorte donc, moi aussi, l'amnesty, tout ça, le président Abdel Fattah al-Sissi a renvoyé le texte de loi vers le Parlement pour qu'on le réécrive, de telle sorte qu'on garantisse que l'Égypte se conforme à ses obligations internationales, parce que dans sa forme actuelle, la loi permet toutes sortes de violations des droits des réfugiés. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le communiqué complet d'Amnesty International. Le titre « Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi doit rejeter la nouvelle loi sur l'asile qui bafoue les droits des réfugiés ».
Et de quels réfugiés en particulier on parle en Égypte, à part les Soudanais?
Ben, je disais, il y a quelques Gazaouis qui ont réussi à se rendre.
Ouais.
Et sinon, il peut en avoir qui ont fui. Il y a la Libye voisine.
Ouais.
La route de la Méditerranée ne fonctionne pas toujours. Il y a eu des reconduites, même à la frontière égyptienne. Je ne sais pas s'il y en a encore.
Mm-hmm.
Et au sud, à part le Soudan, je ne pourrais pas dire, mais j'imagine qu'il y a Sud-Soudan, sûrement un peu l'Éthiopie aussi.
Érythrée-Éthiopie,
hein. Ouais.
C'est déjà la fin de cette dernière cuvée 2024 des Apatrides Anonymes. On vous encourage vivement à écouter nos autres balados disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous entendre sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria 2 fois par semaine. Écrivez-nous aussi à patridesanonymes@commercialresist.ca et suivez notre page FB sur laquelle vous pouvez d'ailleurs voir plusieurs mobilisations dont, entre autres, Manuel nous a parlé tout à l'heure du Centre des travailleurs travailleuses immigrantes, Manuel Salamanca.
Mm-hmm.
On le remercie d'ailleurs d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Une journée sans migrants, c'est le 18 décembre.
18 décembre.
À différents endroits au Québec, dont Montréal.
Dont Montréal, puis on va mettre l'information sur notre page FB. Merci de comparses, Mathieu et Simon, qui toujours décortiquent les actualités avec un souci de rendre digeste des sujets souvent complexes.
Oui, et de dénoncer les Les abus et les horreurs. Hein?
Oui, mais des réalités qui demeurent indigestes malgré notre travail de décortication.
Oui, hein, c'est ça. Puis moi, ce que je vois, en tout cas, le fil conducteur, on dirait comme de l'émission aujourd'hui, c'est oui, effectivement, les gouvernements
un peu abusifs,
ouais. Mais aussi, c'est moi, ce que je vois de plus en plus, c'est justement l'effritement du droit d'asile là, de plus en plus.
Un durcissement pas toujours cohérent. Mais...
Effectivement. Avant de se laisser en musique, comme c'est notre habitude, juste un événement, parce qu'on n'a pas fait de calendrier d'agenda militant, mais un événement à vous suggérer qui est le lancement du dernier numéro de Caminando, la revue du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL. Il s'agit d'une édition spéciale qui est entièrement consacrée au Guatemala. Mathieu, t'en as souvent parlé à l'émission. Je pense que c'est un de tes pays fétiches. Oui. Ce numéro se veut aussi un hommage au projet Accompagnement Québec-Guatemala et retrace donc là, par l'entremise d'articles et de témoignages d'anciens collaborateurs, collaboratrices, son rôle dans la défense des droits humains dans le pays. On explore aussi les dynamiques politiques et sociales du Guatemala, surtout là, depuis l'élection de Bernardo Arevalo en 2023, qui est un peu là, vu comme un symbole d'espoir démocratique pour la population guatémaltèque. Le lancement de la revue va se faire lundi prochain, le 16 décembre, à la librairie La Livrerie, ici dans le centre-sud, pas très loin de l'UQAM, là, au 1376 rue Ontario-Est. Si vous êtes jamais allé, je vous encourage fortement à y aller. C'est une coop, formidable petite librairie. On va écouter un autre quatuor entièrement féminin cette fois-ci, qui se nomme Fin del Mundo. Ils sont originaires de Buenos Aires en Argentine. On va entendre la pièce Refugio, qui est la seule pièce instrumentale de leur dernier album Hicimos Crecer un Bosque, ou en français Nous avons fait pousser une forêt. C'est très beau comme titre, je trouve.
Oui,
très
merci, poétique. Merci pour la traduction. Les traductions, tu nous as traduit une coupe d'affaires aujourd'hui.
Ouais. C'est paru en octobre et l'album occupe la 35e position du palmarès international de Choc.
Je sais pas si on fait pousser une forêt pour se protéger de Milei qui fête son un an au pouvoir.
En plus, ouais, non, c'est ça.
Le lion anarcho-capitaliste, là.
Oui, à la tronçonneuse. Alors, ben, vous deux, sur ce, on va souhaiter bonnes vacances, puis un bon temps des fêtes à vous tous et toutes, chers auditeurs et auditrices aussi. Parce que la prochaine fois que vous allez nous entendre, ben, ça va être en 2025.
Eh oui.
Ça devrait être le 9 janvier, normalement. Mais
oui, normalement, oui.
À discuter ensemble.
Ouais. Oui, puis ben, je suis pas sûre si on va faire... Tu sais que ceux et celles qui sont des fidèles savent qu'en début d'année, on fait toujours un bilan. On revient sur l'année en cours. On essaie de vous faire ça dynamique là avec des quiz, des top 10.
Ben, les quiz, c'est toi, Madame Quiz, oui, mais moi, je suis pour un bilan. Moi, je suis pour qu'on fasse ça.
Les meilleures citations racistes aussi.
Ça sera peut-être pas la première émission de la nouvelle année, on verra. Mais si c'est pas la première, ce sera certainement la deuxième.
Super.
Alors...
Ben merci Marie-Ève pour ton animation.
Oui, merci beaucoup pour l'entrevue d'animation.
Bonne soirée et bon congé à tout le monde.